3, 2, 1.
Radio Cactus.
L'invité. Salut à tous sur Radio Cactus, c'est Elisa et Raphaël. Et on se retrouve pour une interview avec un invité de marque qui a malgré toutes ses occupations et son programme très chargé, accepté très gentiment de venir. On accueille dans le studio le ministre suisse de l'économie et conseiller fédéral, M. Guy Parmelin. Tout d'abord, bonjour et merci d'être venu. On vous imagine à l'aise dans cet exercice au vu du nombre d'interviews que vous avez déjà données.
Bonjour, une interview reste toujours une interview, c'est toujours risqué.
D'accord.
Durant votre jeunesse, imaginez-vous un instant devenir un jour ministre suisse de l'économie et conseiller fédéral ?
Non, alors franchement non. Par contre, j'ai toujours souhaité très tôt... intéressé par la politique, vouloir une fois siéger à Berne, parce que c'était à Berne que se prennent les grandes décisions en matière agricole, en matière d'agriculture. Et comme c'était ma profession, ça m'a toujours intéressé une fois de siéger aux chambres. Mais comme être élu conseiller fédéral, non, j'avais pas de plan de carrière.
Okay. C'est donc pour ça que vous commencez un apprentissage d'agriculteur dans une ferme près de Morat, où vous serez diplômé quelques années plus tard. Vous exploitez ensuite un domaine agricole dans le village de Bursin, dont vous êtes originaire. À quel vous prédestinez-vous à ce moment-là ?
Alors, j'avais fait un gymnase en latin-anglais, une maturité, et puis je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire. Mon père avait construit une ferme neuve à Bursin, et je me suis dit, c'est dommage que personne ne veuille reprendre, parce que mon frère souhaitait reprendre, mais seulement la partie viticole. Et c'est pour ça que je suis parti faire cet apprentissage dans la partie alémanique. Pourquoi dans la partie alémanique du canton de Fribourg ? Parce que ma maman, qui avait été fille au père dans sa jeunesse, nous a toujours dit à mon frère et moi, vous ferez ce que vous voulez dans la vie, mais vous irez une année en Suisse allemande pour voir comment c'est. Et après, j'ai trouvé que c'était bien. Je me suis associé avec mon papa, puis plus tard avec mon frère. J'ai fait encore une maîtrise agricole pour pouvoir former des apprentis.
Comment avez-vous fait pour atteindre ce poste en politique si exigeant ?
Alors, ça s'est passé un petit peu... Il faut avoir un petit peu de chance, être au bon endroit au bon moment, si j'ose ainsi m'exprimer. J'étais président de la section de l'UDC du district de Rolles. À l'époque, il y avait encore le district de Rolles et le district de Nyon, et puis le district d'Aubonne aussi. Et... un jour, nous préparions les élections et une dame qui était candidate sur notre liste me téléphone le vendredi soir. Elle me dit « Je renonce, je ne peux pas continuer, ça ne va pas jouer pour des raisons familiales. » Et le lundi matin, on avait convoqué la presse pour présenter nos candidats. Et on a eu une réunion en catastrophe le samedi, le comité du district, pour prendre la décision qui c'est qui va être candidat. Et puis le comité a dit, ben, on n'a pas tellement le choix, on est le plus petit parti, il y a un trou sur la liste, c'est le président qui s'y colle, tu seras candidat. Et puis j'ai été élu au Grand Conseil vaudois à ce moment-là, avec une voix d'avance sur le sortant. Donc ils ont dû tout recompter, etc. Et puis de là, j'ai siégé 10 ans au Grand Conseil vaudois, je suis devenu président après du parti cantonal. Et puis j'ai été élu en 2003 au Conseil national, donc... il faut un petit peu de chance. Si cette dame m'avait pas renoncé, j'aurais pas été candidat à ce moment-là. Je peux pas dire ce qui se serait passé après.
Quelles a été les plus grandes difficultés pour passer du monde de l'agriculture à celui de la politique ?
Écoutez, il faut déjà être passionné par la politique. C'est quelque chose qui est dur, la politique. Il faut savoir encaisser les coups. Nous sommes, nous, politiciens, habitués à encaisser les coups. C'est beaucoup plus difficile pour la famille, pour les proches. Il faut... beaucoup travailler. On a un système qu'on appelle un système de milice, c'est-à-dire que vous avez la plupart du temps une profession à côté. Moi, j'ai eu de la chance, puisque mon père et mon frère, j'étais associé avec eux sur le domaine, j'avais beaucoup de temps. Je pouvais choisir un petit peu mes horaires et me concentrer sur les dossiers, étudier, travailler les dossiers. Après, il faut s'intéresser. J'ai toujours été intéressé, par exemple, par les assurances sociales. Et c'est dans cette commission que j'ai eu la chance... parce que mon parti m'a désigné de pouvoir commencer mon premier mandat à Berne. Et c'était en plus au moment où il y avait les réformes du deuxième pilier, il y avait eu des problèmes dans cette assurance. Et à partir de là, je me suis vraiment pris au jeu. C'était quelque chose de très intéressant qui touchait la population de tous les jours. Si vous avez une retraite ou pas une retraite, à quelles conditions, c'est extrêmement important. Et après, il faut il faut travailler, et puis il faut surtout avoir une ligne. C'est pas toujours populaire de dire non, là on vous donnera rien, non, là c'est comme ça, mais il faut tenir sa ligne. Et on a eu perdu, j'ai eu fait des débats où je savais qu'on allait perdre à 70-72%, mais vous devez aller dire aux gens que pourquoi vous défendez le non à ceci alors que c'est pas populaire. Et j'ai jamais eu de reproches, au contraire, les gens étaient content qu'on vienne exposer des arguments. Puis après, en Suisse, c'est très bien. Il y a une votation, vous gagnez, vous passez autre chose. Vous perdez, vous passez autre chose. Vous essayez de corriger les choses. C'est ce qui fait l'excellence du système.
D'accord. Ben, merci beaucoup pour cette première partie d'interview. On se retrouve après la musique. Et cette musique, c'est 74-75 de The Connells. Vous êtes en direct sur Radio Cactus avec Elisa et Raphaël. Nous retrouvons notre invité, Guy Parmelin, ministre fédéral de l'économie.
À quoi ressemble la journée type de Guy Parmelin ?
Alors ça dépend des jours, mais la journée normale à Berne, c'est réveil à 5h15 le matin, la petite toilette, marcher jusqu'au bureau, regarder les mails, voir s'il y a des signatures, relire peut-être certains dossiers. En général, la première séance a lieu à 7h15, et puis après on enchaîne les séances non-stop, quasiment juste vers midi, midi et demi. Quand tout va bien, on a le temps de faire une petite pause d'une heure pour manger, souvent avec quelques collaborateurs, parfois tout seul, parfois c'est du biscuit militaire, mais parfois c'est comme ça. Et puis on reprend l'après-midi la même chose, jusque vers 18h30, 19h. Et puis à partir de là, il y a souvent encore des dossiers à préparer pour le lendemain, mais je prends les dossiers, je descends à mon appartement, puis j'ai un appartement à Berne avec mon épouse, et je vais travailler dans l'appartement, dans un autre environnement. Si je suis fatigué, je peux dormir un moment, retravailler un petit peu plus tard, c'est plus simple. Ça, c'est la journée type de travail, mais à côté de ceci, vous avez des journées où vous êtes en séance de commission parlementaire. Donc vous devez aller défendre un dossier devant une commission parlementaire. Quand vous avez la session parlementaire, comme c'était le cas la session de printemps, vous savez que par exemple lundi après-midi, à telle ou telle heure, vous avez l'heure des questions. Vous êtes à la tribune du Conseil national, après vous êtes peut-être au Conseil des États. Ça, c'est les journées, je dirais, type du Conseil fédéral.
Et dans votre vie privée, ça prend beaucoup de temps, je suppose.
C'est quoi la vie privée déjà? Non, la plaisanterie mise à part. Il faut une bonne organisation. C'est vrai que c'est pas facile pour les proches. Par exemple, le week-end, pour moi, j'ai besoin au moins ou du samedi ou du dimanche entier pour préparer les dossiers de la semaine suivante. Il faut voir que quand il n'y a pas les sessions, chaque mercredi, on a la séance du Conseil fédéral. Donc, vous recevez les dossiers le vendredi, en général. Il vous faut les étudier. Vos collaborateurs vous préparent certains sujets, mais c'est vous qui devez décider. Est-ce qu'ici, je suis d'accord ou pas d'accord avec le dossier de l'autre département, par exemple? Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire ce qu'on appelle un co-rapport, c'est-à-dire une explication critique ou une demande de modification ou des demandes de précision. Tout ça pour préparer la discussion du mercredi au Conseil fédéral. Quand il y a les sessions, on a ces séances du Conseil fédéral le vendredi. Alors c'est un peu plus léger le week-end, mais il suffit que vous soyez au Parlement pour défendre un de vos dossiers le lundi, et c'est pas plus léger non plus. Donc il faut que le partenaire ou la partenaire, il doit faire preuve de beaucoup de compréhension. Et puis quand vous avez des vacances, il faut tâcher de prendre des vacances, au moins quelques jours, pour pouvoir récupérer.
Avez-vous déjà rencontré un chef d'État? Si oui, lequel?
Oui, plusieurs. Dans le désordre, on a eu le président tunisien, le président portugais. J'ai vu le président du Brésil à Davos, au Forum économique Davos, avec le président de la Confédération, Ouli Maurer. Le président chinois aussi est venu en visite, ce qu'on appelle visite d'État. Une visite d'État, c'est quand l'invité étranger est reçu à Berne et que le Conseil fédéral est au complet pour le recevoir. En général, le soir, vous avez une journée, il y a l'accueil, il y a la visite avec le président de la Confédération, tous les membres du gouvernement. En général, le soir, il y a une soirée de gala où les partenaires sont aussi invités. La semaine prochaine, par exemple, on reçoit, à l'invitation du président de la Confédération, Ouli Maurer, le prince héritier du Liechtenstein. C'est ce qu'on appelle une visite d'État. Et là, on est tous là pour l'accueillir mercredi.
Dans notre société actuelle, pour nous, les jeunes, le métier d'agriculteur, il fait plus trop envie. Cela devient rare de notre génération que des jeunes suivent cette voie. Que voudriez-vous dire à ceux qui nous écoutent pour les motiver?
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette appréciation. D'après ce qu'on m'avait laissé entendre au niveau des chiffres, il y a toujours une volonté d'embrasser cette profession de l'agriculture. On a beaucoup de jeunes aussi qui viennent peut-être de milieux non agricoles, naturellement, puisque le pourcentage de gens qui sont agriculteurs en Suisse a baissé, a diminué ces dernières années. Je crois que si vous aimez une profession, vous devez la faire le mieux possible. Mais il faut toujours prévoir, on est dans une phase où la société bouge, où ça évolue extrêmement vite. Et moi, j'ai eu, par exemple, formé pendant presque 20 ans des apprentis. J'ai eu des apprentis qui avaient déjà une autre formation avant. Mmh. Et j'en ai eu un, par exemple, il m'avait dit, j'ai fait une formation de fromager, maintenant je veux faire agriculteur, et après, je veux ouvrir un magasin à la ferme pour faire de la vente directement, c'est le cas de le dire. Donc, si vous faites une profession, quelle qu'elle soit, que vous êtes motivé, il vous faut la faire le mieux possible, mais vous devez aussi réfléchir qu'est-ce qui se passe, un, si je ne trouve pas de travail, deux, comment est-ce que je fais pour vivre. Quand j'ai fait le gymnase, j'avais un ami, ça m'a toujours frappé, sa passion c'était la géologie. Il m'avait dit, je sais, il y a un poste en Suisse de géologue, donc je sais que je vais devoir travailler à l'étranger ou il faudra que je fasse une autre profession. Ben, il a fait une profession, il s'est réorienté vers la microtechnique, mais il avait réussi brillamment à ce qu'il voulait faire au début, la géologie.
Du coup, il faut trouver un plan B pour...
Oui, je crois qu'il faut le prévoir. Et puis, bon, vous avez la personne, le jeune ou la jeune fille qui sait dès le début ce qu'elle veut faire. Moi, ce n'était pas mon cas. Je suis parti faire le gymnase parce que je ne savais pas tellement ce que je voulais faire. Après 15 jours de gymnase, je savais que je ne voulais pas continuer l'université. Et mes parents m'ont dit, écoute, fais quand même gymnase, ça ouvre toutes les portes. Après, si tu veux vraiment pas faire, tant pis. Après, je suis parti faire l'apprentissage. J'ai jamais regretté. Des fois, il faut peu de choses. Chaque individu, chaque personne a un développement un peu différent. Certains très tôt savent jusqu'au bout ce qu'ils veulent faire. Et puis, quand vous êtes paysan comme moi, où il y a un domaine, c'est plus facile que pour quelqu'un qui n'a pas de domaine, parce que s'il n'a pas de domaine, il doit soit être employé dans une institution, chez quelqu'un d'autre, soit s'il doit investir ou acheter un domaine, il faut avoir les moyens d'investir.
Depuis quelques semaines, vous êtes le nouveau chef de l'économie. Vous étiez bon et performant au département de la Défense. Pourquoi l'avoir quitté pour l'économie, justement ?
Alors, merci déjà pour les félicitations, ça me fait plaisir de savoir que j'ai fait. C'est pas la vis de tout le monde, je dis tout de suite.
Oui.
Mais... c'était une analyse un petit peu personnelle et factuelle, comme j'ose dire. J'ai fait 3 ans au département de la Défense. J'ai été extrêmement heureux dans ce département. J'avais d'excellents collaborateurs. On avait eu des gros dossiers. Il a fallu préparer le dossier sur les avions de combat qu'on va pour renouveler la protection de l'espace aérien chez nous, pour la protection de la population. On a un gros dossier technique qui est l'entreprise RUAG qu'on a dû préparer. Toute la réforme de l'armée. Il y a eu la loi sur le service de renseignement, c'était une votation populaire, il fallait gagner cette votation, on l'a fait. Après, la question, elle se pose à un moment donné, est-ce qu'il faut continuer avec le risque, mais je mets les guillemets, de devoir faire peut-être encore 4, 5 ans dans le même département, alors ça peut être passionnant aussi, ou est-ce que le moment n'est pas venu de changer, de voir autre chose, et j'ai toujours aussi été intéressé par la formation, la recherche. Naturellement l'agriculture aussi, ça c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de totalement nouveau et je pense que ce défi ça m'a un petit peu titillé et c'est pour ça que ça m'a suscité la volonté de relever ce nouveau challenge. Aussi, il faut le dire, il y avait un aspect politique. Le parti UDC était depuis 23 ans en charge du département de la sécurité et de la défense. Il n'est pas sain que ça soit toujours le même parti qui gère les mêmes choses. Et je crois que c'était aussi bien qu'il y ait un brassage au niveau du Conseil fédéral.
Mais donc, un parti ne peut pas posséder plusieurs départements ?
Oui, si vous êtes deux, c'est clair. Par exemple, Uli Maurer avait le département des finances. Il a souhaité le garder. On a une discussion quand on se répartit les départements. Mais après, c'est le collège qui décide qui prend quoi.
Oui.
Comment se passe la répartition des dicastères au Conseil fédéral ?
Ah, ça c'est la question top secret, en principe. Non, c'est la seule séance, il faut vous rendre compte, c'est la seule séance où on ne siège pas dans la salle du Conseil fédéral. On siège dans une salle à côté qui s'appelle le salon du président. Et c'est la seule séance où nous sommes les sept conseillers et conseillères fédérales. Il n'y a pas le chancelier ni les vice-chanceliers. Okay. Donc nous sommes les sept. C'est le plus ancien en charge qui parle en premier. Chacun fait état de ses voeux, de ses préférences, de son appréciation de la situation. On fait un tour de table. Puis après, on discute et puis on regarde jusqu'à ce qu'on se mette d'accord pour dire, ben voilà, c'est comme ça qu'on va réorganiser le gouvernement. En théorie, vous avez même la possibilité, ça s'est fait dans le passé une fois, de déplacer certaines choses. Par exemple, à l'époque, tout ce qui était formation avait été transféré du département de l'intérieur au département où je suis maintenant, pour regrouper la formation de manière générale dans ce département. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, vous annoncez les mutations, les changements. La dernière fois, il y avait deux nouvelles conseillères fédérales, donc il fallait... ça a pris un petit peu plus de temps pour discuter.
C'est pas des moments trop pénibles, du coup?
Non, mais c'est de la politique. Et dans la politique, vous défendez des intérêts politiques. Mais l'important, c'est qu'une fois que vous avez discuté de vos dossiers, pris les décisions, il y a ce qu'on appelle la collégialité chez nous. Vous respectez les décisions, vous vous engagez au nom du gouvernement, plus en votre nom personnel. Vous pouvez avoir gagné, vous pouvez avoir perdu, mais c'est la décision du Conseil fédéral. Et puis après, vous annoncez, puis vous travaillez.
Dans l'actualité, il est beaucoup question de climat. On parle d'une économie qui respecterait le climat en utilisant les énergies renouvelables et qui respecterait en même temps les conventions économiques internationales, ce qu'on appelle l'économie circulaire. D'après les chiffres, votre parti, l'UDC, n'est pas forcément le champion des votes pour le climat. Quelle est votre position en tant que nouveau chef de l'économie ?
Alors, au niveau de cette politique, il faut voir que la Suisse, par le biais du Conseil fédéral et du Parlement, a signé l'accord de Paris sur le climat. Donc elle a pris des engagements. Maintenant, il faut remplir ces engagements concrètement, il faut les respecter, parce qu'il y a une surveillance internationale sur ce sujet. La Suisse a adopté une stratégie énergétique, qu'on appelle la stratégie énergétique 2050. Là aussi, maintenant, on doit faire la loi d'application. Vous avez vu, c'est pas si simple que ça. Ça a été renvoyé au Conseil national, mais ça va revenir. Mais le Conseil fédéral, quand il signe des accords, il respecte ces accords. Après, il y a le Parlement qui intervient, et éventuellement le peuple. Par le biais de référendums, si on modifie des lois ou autres. Maintenant, pour répondre précisément à la question, il y a les grandes déclarations, les grands effets d'annonce. C'est très joli d'infliger des taxes à tous les niveaux. À un moment donné, il faut voir si ça fait avancer le schmilblick, pour rester vulgaire. Et il faut voir concrètement ce que vous obtenez. Et je crois qu'avec les engagements qu'a pris le Conseil fédéral, on aura du concret. Et entre les grandes déclarations et ce qui va se passer et les effets qu'on va constater, il y a toujours un laps de temps qui se déroule. Et si je prends l'exemple que je connais bien de l'agriculture, ces 20-25 dernières années, par exemple, on ne traite plus, on est devant des vignes, ici, on ne traite plus dans notre région avec des insecticides ou des acaricides. On fait de la lutte biologique par confusion sexuelle contre les vers de la grappe, par exemple. Il y a eu énormément de progrès. Pour ne prendre que cet exemple, dans les cultures de maïs, vous luttez contre un ravageur qui s'appelle la pyrale de maïs en lâchant des petites mouches qui vont parasiter les œufs. Et ça, c'est des effets concrets. C'est de la diminution de la pression sur l'environnement. Donc moi, je me méfie de celles et ceux qui veulent infliger des taxes. En général, ça ne fait pas beaucoup avancer la situation. Ça renchérit les coûts pour les citoyennes et citoyens. Mais à la fin, il faut voir l'efficacité.
Oui. L'économie suisse, est-ce qu'elle est influencée par le conflit économique entre les USA et la Chine ?
Oui. Malheureusement, oui. Ce sont deux grandes puissances. Elle est influencée. Prenez simplement l'exemple, les États-Unis d'Amérique ont augmenté ou infligé des pénalités, des droits de douane sur l'acier. Ils ne se sont pas inquiétés de comment ça allait se passer, les répercussions. Nous sommes touchés. Après, il y a eu des contre-mesures du côté de l'Union européenne. La Chine a pris aussi certaines mesures. Nous sommes un petit pays qui est tourné vers l'exportation. qui vont beaucoup à l'étranger, et c'est important pour nous d'avoir les frontières le plus ouvertes possible et le moins de droits de douane ou de contraintes techniques quand on veut exporter nos machines, par exemple, etc., etc. Et c'est ce à quoi nous devons essayer de travailler. L'Organisation mondiale du commerce, où normalement c'est là qu'on discute ces accords et qu'on essaye d'éviter qu'il y ait des droits de douane, des obstacles, ce qu'on appelle les obstacles techniques au commerce, elle est paralysée parce que les États-Unis bloquent toutes les nominations de l'organe qui vise à arbitrer les conflits. Et si on ne peut pas débloquer ceci d'ici la fin de l'année, alors pour les petits pays comme la Suisse, ça sera toujours plus difficile. Et c'est pour ça que nous essayons de faire des accords aussi de libre-échange bilatéraux pour essayer de trouver des alternatives. Mais le mieux pour tout le monde serait que ce conflit se règle et que la sérénité revienne, parce que c'est le monde entier qui est touché, pas seulement la Suisse.
Ok, du coup, vous réagirez comment face à ça ?
Alors, nous nous engageons, la Suisse s'engage avec d'autres pays, j'étais donc au Forum économique de Davos, on s'engage avec d'autres pays pour essayer de proposer des réformes à l'Organisation mondiale du commerce, pour essayer de trouver des solutions qui permettraient de ramener les Américains à la table de discussion, parce qu'il faut pratique la politique pratiquement de la chaise vide actuellement, de faire en sorte que les deux grands États, que sont la Chine et les États-Unis, se causent à nouveau et trouvent un modus vivendi. Et nous nous engageons avec de nombreux pays pour faire des propositions concrètes de réforme de cette organisation. Mais il faut que les principaux protagonistes acceptent de discuter. Pour le moment, ils discutent entre eux. On verra si quelque chose ressort de ces discussions.
On va changer de thème maintenant, on va parler de l'école, parce que nous le rappelons, on est une radio scolaire. Dans un monde en évolution, quelle est votre vision de l'école ? Doit-elle s'adapter aux besoins de l'économie ? Si oui, comment ?
Alors, en Suisse, nous avons un système fédéraliste. Vous avez la Confédération, les cantons, les communes. Et tout ce qui est formation professionnelle, université, école, formation continue, c'est beaucoup l'affaire des cantons qui doivent faire ceci. Vous l'avez dit, il y a une évolution dans les professions. Pensez avec les nouvelles technologies, ce qu'on appelle la numérisation, la digitalisation, Internet. Il y a des métiers qui se créent, il y a des métiers qui disparaissent. Je prends un seul exemple. Avant, quand vous achetiez une voiture, vous étiez en panne, vous allez chez le garagiste. Oui. Aujourd'hui, vous appelez le mécatronicien. Parce que vous levez le capot, vous dites « moi, je peux rien faire », il vient avec ses fiches pour voir où est la panne, etc. Ça, c'est des nouveaux métiers. Donc, il faut qu'on s'adapte à l'évolution des choses. Ça ne veut pas encore dire qu'il faut faire tout ce que l'économie veut, mais j'entends, on doit faire attention à ceci. Et au niveau fédéral, la Confédération soutient les cantons en amenant des moyens financiers pour les universités. Il y a les hautes écoles. Nous avons une conférence des hautes écoles que je préside où on regarde comment répartir les moyens publics. Et la Confédération gère deux hautes écoles. Ce sont les écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich. Et ça, la Suisse a un atout avec la manière dont elle mène sa formation. Naturellement, il faut s'adapter, il faut suivre l'évolution, il faut toujours essayer de rester au top du top, parce que le système, par exemple, d'apprentissage, ce qu'on appelle la formation duale, c'est un atout considérable si on voit ce qui se passe à l'étranger, parce que les jeunes qui font un apprentissage trouvent rapidement, ils sont en contact du travail, du marché du travail, et ils trouvent souvent un job. On a beaucoup moins de chômage des jeunes chez nous que dans certains pays européens qui ont tout mis sur ce qu'on appelle l'académisation. Et ça, il faut soigner ceci, et les organisations aussi professionnelles, des milieux des métiers, les organisations syndicales sont très sensibles à ceci.
Que pensez-vous des projets d'intégration des médias en classe comme Radiobus ?
Alors, les médias jouent leur rôle. Vous savez qu'à Berne, ils sont assez difficiles avec les politiciens, d'une manière générale, pas seulement à Berne. Je pense que l'évolution des médias fait qu'on doit... On doit vivre avec les médias. C'est aussi, pour certains, c'est pas facile. Il y a des nouveaux métiers. Il y a les médias écrits, il y a les médias électroniques. Je crois que moi, j'ai pas d'opposition à ce qu'on sensibilise, à ce qu'il y ait ces mesures d'intégration des médias dans le milieu scolaire. Mais je crois qu'il y a ceci, puis il y a d'autres choses. Il faut garder les vraies priorités aussi dans les milieux scolaires. Et la vraie priorité, c'est la formation pour avoir un job et puis pouvoir être autonome et indépendant dans sa vie de tous les jours.
Encore une petite question. Auriez-vous une anecdote sympathique sur votre scolarité à nous raconter ?
Sur ma scolarité ?
Ou même depuis...
Alors sur ma scolarité sympathique, je sais pas, je me rappelle qu'une fois j'étais en camp de ski avec une équipe, nous avions notre prof et nous avions tellement dit à notre prof on veut faire comme descente le pas de Chavanette, je sais pas si vous connaissez cette pente non. Au-dessus de Champéry, Planinchaud qui est raide comme ça, mais on n'était pas des très très bons skieurs.
Ah oui.
Et puis on est monté avec le télésiège, puis plus on montait, plus on se disait c'est raide quand même, est-ce qu'on veut faire ? Puis naturellement, on ne voulait pas montrer. Que... Hein ? Alors il y en a une qui est redescendue au télésiège, qui a dit moi j'ai peur, je ne veux pas. Et puis on a mis, je crois, 2 heures pour faire, d'ici que le dernier soit descendu le pas de Chavanette, parce qu'il ne voulait pas. Il était crispé au milieu du départ. Et puis moi, j'ai fait un tiers du pas de Chavanette sur le dos, parce que je suis tombé, totalement déchiré, etc. Et là, je me suis dit, bon, une fois, pas deux fois, c'est bien joli d'être gonflé, de montrer les muscles, mais il faut connaître ses limites.
Oui.
Voilà, cher auditeur, notre interview est terminée. Nous remercions M. Guy Parmelin d'avoir organisé son agenda pour venir nous voir. Nous avons eu la chance de pouvoir vous interviewer. Merci.
Merci à vous.
Nous espérons que vous avez eu aussi du plaisir comme nous à venir ici. Et puis, bonne continuation dans votre carrière politique.